situé. Je vais m'entretenir avec vous sur un peu la gestion opérationnelle. Donc, en tant que chef de département, l'objectif de cet entretien consiste donc à diagnostiquer les réalités de terrain, donc l'accompagnement direct des étudiants et le suivi des anciens étudiants. J'ai quelques thématiques autour desquelles nous allons échanger sur la connaissance de vous-même, l'état des lieux et des ressources. Nous allons parler aussi de l'accompagnement des étudiants et le suivi des anciens étudiants. Pour commencer, je voudrais vous demander si vous pouvez me parler de votre quotidien à la tête du département et de votre parcours aussi de formation. Donc, votre parcours de formation en premier, par quelle formation vous êtes passé pour aujourd'hui être à la tête du département de l'agronomie au sein de l'Université de Sarre. Et votre quotidien, qu'est-ce que vous faites quotidiennement à la tête du département en termes de responsabilités qui vous incombent. Donc voilà, une première connaissance de vous-même et de ce que vous faites.
Merci. Mon nom, c'est Christine Aboubi. Oui. Par rapport à mon parcours, j'ai eu un bac D en 2000 au lycée Jacques Moudéina de Bangor, le centre de Bangor. Après ce baccalauréat de l'enseignement du second degré, j'étais admis en première année du tronc commun de l'Institut universitaire de sciences agronomiques et de l'environnement de Sarre. Donc, je suis venu ici, j'ai passé 3 années. Je suis sorti titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux agricoles en 2003. Après cela, comme entre-temps il y avait des problèmes de recrutement des enseignants scientifiques, j'ai été recruté comme professeur de mathématiques. Puis après avoir fait 5 années au ministère de l'Éducation, je suis allé à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, où j'ai fait un master en sciences du sol. Après ce master, master recherche, après ce master là-bas en sciences du sol, j'ai été sollicité ici, affecté à l'université de Sarre et plus précisément à la faculté d'agronomie comme enseignant-chercheur. Et puis j'ai pris une inscription en thèse à l'université de Marois et en pédologie cette fois-ci. Parce que la pédologie c'est aussi la science du sol, mais sauf que quand on parle des sciences du sol en master, il y a beaucoup de choses dedans. La minéralogie des sols, la chimie des sols, la physique des sols. Donc en master, j'ai fait un truc un peu général et j'ai fait une thèse en sciences du sol, la pédologie. Okay. Oui. Donc disons que quand j'étais venu ici, je me suis retrouvé parmi mes enseignants.
D'accord.
C'est d'ailleurs eux qui ont facilité ma venue à l'université de Sarre ici. Ils sont là même maintenant, nombreux encore. Le doyen Kaboul, le vice-président chargé de la recherche, professeur Gualbaï, les Taouya, tous ceux-là étaient mes enseignants ici. Et donc après 4 années, c'est comme ça qu'on m'a confié le département des sciences agronomiques. Et puis disons que l'année passée aussi en 2025, lors de la 47e session de CAMES, j'ai été promu au grade de maître assistant CAMES. Ça, c'est ce qui est de mon parcours, d'une manière générale.
Ok.
Oui.
Et vos responsabilités à la tête du département, au quotidien, qu'est-ce que vous gérez?
Oui. À la tête du département, je suis chargé de programmer les cours. Je programme et je suis les cours. Donc, dans un premier temps, on répartit les matières par rapport au profil des enseignants. Puisqu'on a déjà un programme, on voit les profils des anciens, on leur attribue les matières. Et le chef de département est chargé de suivre les enseignements que les enseignants donnent. Chaque fois que la journée finit, le délégué nous ramène le cahier de texte. Nous essayons de voir est-ce que le cours donné répond à ce qui devait se donner. Parce que là, dans le programme, il y a le syllabus du cours. Chaque cours, on détaille un peu, on décrit un peu le cours. Donc, quand l'enseignant donne le cours, nous essayons de voir est-ce qu'il ne sort pas en dehors du syllabus, est-ce qu'il ne sort pas en dehors de ça. Et puis, après, nous établissons les fiches de suivi. Les fiches de suivi. Dans la fiche, il y a l'identité de l'enseignant, puis il y a les heures où il a fait les cours et puis les détails du cours. Et puis l'enseignant signe à la fin et nous voyons si cette fiche est en conformité avec ce qui est fait dans le cahier du texte. Nous signons puis nous acheminons cette fiche-là à monsieur le doyen qui va faire la suite.
Oui. D'accord.
Oui. Donc les vacataires, c'est aussi nous qui les choisissons. Quand il y a une matière où nous n'avons pas des enseignants sur place, le plus souvent on nous dépose les demandes et sur ces demandes, nous essayons de nous voir au département quel profil convient mieux pour tel cours.
D'accord.
Donc on attribue ce cours aux vacataires là également. Oui.
D'accord.
Oui.
Ok. Donc, et actuellement, quels peuvent être les dossiers qui mobilisent vraiment votre attention? Sur quoi votre attention est focalisée vraiment?
Oui, en tant que chef de département, c'est devenu presque un travail de routine. Nous voulons que les cours soient faits normalement et à temps. Donc, nous veillons sur les absences quand... on doit programmer un enseignant, on demande son avis. Et pour ça, c'est que nous tenons beaucoup à la ponctualité. Nous tenons beaucoup à la ponctualité. Et surtout que du ministère, on nous demande d'être ponctuel. Il y a la vice-présidente qui est chargée des enseignements qui nous rappelle chaque semaine presque sur l'état d'avancement des cours. Donc, chaque jour que nous venons ici, c'est de voir est-ce que la programmation faite là est respectée. C'est beaucoup plus ce qui nous tient à court terme.
Okay.
Oui.
Maintenant, nous allons faire un peu l'état des lieux par rapport à l'orientation de vos étudiants. Alors, je voudrais vous demander comment vous décririez les dispositifs, peut-être formels ou informels, qui existent au sein de votre établissement, ou même qui n'existent pas. Concernant l'orientation et l'insertion des étudiants, est-ce qu'il y a un dispositif formel ou informel qui existe? Et si tel est le cas, comment le décririez-vous pour l'orientation de vos étudiants?
Ceux qui ont déjà fini.
Ceux qui sont en parcours maintenant.
En parcours maintenant.
Est-ce qu'il y a un dispositif pour les suivre, assurer leur orientation? Voilà, toi tu es dans telle filière, tu fais telle formation à la sortie. Bon, c'est un exemple quoi. Comment vous leur donner quelques outils pour mieux préparer leur sortie et s'insérer? Est-ce qu'il y a un dispositif comme ça que vous suivez régulièrement ou pas?
Non, nous n'avons pas un dispositif dans ce sens. Parce que là déjà, quand un étudiant entre en première année, nous savons qu'il va faire soit le département de l'environnement, soit le département des sciences agronomiques, soit le département des ressources halieutiques. Et là, la latitude est laissée aux étudiants pour le choix de leur filière. Les orientations, c'est peut-être que quand nous donnons, dans un cours par exemple que je donne en phytotechnie générale, dans ce cours, il est question de définir le mot agronomie, faire la différence entre agronomie et agriculture. C'est ce qui nous amène dans les commentaires d'expliquer un peu les champs de l'agronomie, les champs de l'agriculture et autres.
Oui.
Mais sinon, il n'y a pas un dispositif proprement dit pour les orienter.
D'accord.
Oui.
Et alors, comme vous dites, il n'y a pas de dispositif. Si devait arriver qu'on mette en place un dispositif, de quelles ressources disposez-vous pour mener à bien cette mission? S'il peut arriver qu'on mette en disposition, qu'on crée un dispositif d'orientation, de quelles ressources vraiment disposerez-vous pour mener à bien la mission de cette structure ou ce dispositif-là?
Les ressources peut-être humaines. Les ressources humaines, je crois, il y en a assez. Et chez nous, ici, l'orientation, si nous devons penser à l'entrepreneuriat agricole, peut-être que là aussi, disons que nous avons des vastes superficies de champs qu'ils peuvent peut-être s'exercer dessus. Oui, nous avons jusqu'à 150 hectares ici. Si seulement ils s'intéressent à l'entrepreneuriat, peut-être qu'il faut commencer. Comment ils vont faire tout ça? Peut-être qu'on peut miser sur ces ressources-là. Oui. Donc les ressources humaines et puis les terres, nous en avons aussi.
D'accord. Donc il y a 150 hectares déjà,
oui,
qui peuvent être mis en exploitation.
Oui.
Puisqu'ils sont en formation dans le domaine de l'agronomie,
oui,
ils peuvent déjà être suivis là pour les préparer à avoir des aptitudes d'employabilité de manière déjà directe,
oui,
ou soit ils se prennent eux-mêmes en charge,
oui,
que d'aller chercher à être recrutés quelque part.
Oui.
Ok. Alors, concrètement, comment se passent les échanges lorsqu'un étudiant vient vers vous pour exprimer des préoccupations liées à son avenir professionnel? Est-ce que les étudiants viennent vous voir, qu'ils sont inquiets? Comment ça se passe, les échanges?
Oui, ils sont nombreux à venir nous voir. Ils sont nombreux à venir nous voir. Et en première, deuxième année, ils sont encore un peu hésitants. Mais déjà à partir de la troisième année, ils nous fréquentent tellement. Ils nous posent même des problèmes au-delà de la licence. Ils disent même comment faire après la licence, tout ça. On échange franchement quand même déjà à partir de la troisième année. Ils sont très ouverts à nous et nous collaborons beaucoup.
D'accord.
Oui.
D'accord. Et quand ils viennent poser leurs problèmes, vous les orientez vers des interlocuteurs en dehors de ce que vous leur dites, vous leur demandez d'aller voir d'autres interlocuteurs pour compléter un conseil de ce qu'ils vont faire ou bien...
Oui, si nous connaissons une structure, si nous connaissons quelqu'un, nous les orientons là-bas. Si nous connaissons quelqu'un, une structure, tout ça, on les oriente là-bas pour plus d'informations. Et quelquefois, quand on a même une adresse,
oui,
qu'on a trouvée quelque part, on leur remet pour qu'ils essaient de décrire à l'adresse là pour avoir plus d'informations. Oui.
Oui. Donc là, nous sommes en train d'aborder concrètement déjà le travail de la cellule, la cellule d'orientation là.
Oui.
Si elle est effective,
oui,
voilà le travail que cette cellule peut abattre pour mettre à la disposition des étudiants des ressources utile pour leur pour préparer leur employabilité.
Oui.
Le CV, par exemple, un atelier de CV, un atelier pour se préparer aux entretiens d'emploi ou encore les démarches de recherche d'emploi à partir du numérique aujourd'hui, tout ça sont des ressources qu'il faut qu'ils connaissent avant de sortir. Raison pour laquelle il est important d'échanger avec vous pour voir concrètement comment ça peut être possible. Donc là, je passe peut-être au dernier élément de notre échange pour voir quelles sont les méthodes utilisées au sein de votre département pour rester informé du parcours de vos anciens étudiants après leur départ de l'université. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez au sein du département pour rester en contact avec vos anciens étudiants qui sont déjà partis?
Il n'y a pas une méthode proprement dite. Il n'y a pas une méthode. Comme je vous disais, à partir de la troisième année déjà, les étudiants se rapprochent tellement de nous, ça fait qu'ils ont nos numéros. Le plus souvent, quand il y a un avis de recrutement, on leur demande des lettres de recommandation et autres. Ils nous écrivent inbox, ils nous écrivent directement. Nous leur faisons ces lettres de recommandation. Et sinon, il y a aussi les deux dernières promotions là, qui ont créé des groupes WhatsApp. C'est une initiative qui est venue d'eux. Ils ont créé ce groupe et ils nous ont mis dedans. Et là, nous aussi, chaque fois qu'on a un avis de recrutement qu'on trouve quelque part, on met aussi dans ce groupe. Eux aussi, quand ils ont, ils mettent aussi là-bas. Mais sinon, au niveau du département, nous n'avons pas développé une stratégie pour les suivre.
D'accord.
Oui.
Les suivre et même savoir tel est où, par exemple, vous, ici.
Oui.
Vous êtes un produit de l'institut, vous revenez ici.
Oui.
Un autre peut-être peut se trouver à l'agriculture, un produit. Et on sait déjà qu'il y a des ressortissants de l'école qui sont là, peut-être pourquoi pas une association des anciens, étudiants qui pourrait aussi apporter une contribution dans le cadre d'orienter les cadets qui sont sur le banc, ou encore vous-même, vous savez que tel ministère, dans tel service, vous orientez les jeunes qui viennent vous voir, allez voir tel qui est votre aîné qui a fini ici, qui est dans un projet peut-être suicide, qui est dans un projet, je ne sais pas, FIDA ou un truc, et puis allez-y le voir. Donc ça peut déjà permettre d'avoir un réseau, parce que l'emploi aujourd'hui c'est aussi question de réseautage. S'ils se connaissent entre eux et qu'ils forment ces réseaux-là, ça leur permettra aussi de préparer au mieux leur insertion et leur employabilité. Donc c'est bien important d'y penser. Si déjà les deux dernières promotions ont cette initiative de création de groupe WhatsApp, ce sera aussi intéressant de voir comment faire que ce groupe-là devienne même un centre où le département peut s'impliquer pour pouvoir fédérer les autres. Donc les contacts peuvent se faire et depuis la aiguille, on peut retrouver même les anciens, peut-être qu'ils sont à un poste très stratégique qui pourrait apporter un appui au département, l'autre main, qui n'y ont pas pensé, vous pouvez les solliciter aussi. Donc cette approche-là, à valoriser, à prioriser, puis à suivre. Et raison pour laquelle, pour notre part, il est question que je descende sur le terrain, avoir ces échanges avec vous, en faire un rapport, afin que les décideurs, donc le ministère et l'ambassade de France, qui appuient le ministère dans ce sens-là, puissent mettre à profit les moyens, même substantiels, pour pouvoir aider à suivre les jeunes. Parce que le grand souci, c'est que les jeunes sortent sans outils d'insertion. Ils ne savent pas peut-être écrire une lettre de motivation. Pendant qu'ils sont là, on ne leur a jamais montré comment il faut faire. Ou bien rédiger un CV professionnel, ils ne le savent pas. Mais ça, c'est des outils puissants de recherche d'emploi. Et il y en a qui vont simplement aller faire des copier-coller, mais ça aussi, c'est dangereux. Il faut leur montrer comment il faut faire. Et cette cellule aura donc la possibilité, les moyens pour pouvoir conduire ces activités-là auprès des jeunes. Comme demain, on aura encore une réunion avec tout le monde. Ce sera aussi l'occasion d'échanger et aux besoins, de réfléchir encore plus davantage pour pouvoir mutualiser les efforts au niveau des différents sites de formation. Parce que j'étais à l'AI, j'ai fait le même travail à l'AI, je suis ici, je vais finir, après je remonte vers Moussoro, Ati et Abiché pour terminer, comme je l'ai dit. Ça permettra après de sortir un document, un rapport de l'état de besoins, l'état des lieux, les diagnostics en matière d'orientation dans ces établissements. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à nos échanges, qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être une réflexion au-delà de ce qu'on vient de dire, si vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, sinon, ce que vous dites maintenant, c'est un stimulus. Parce que
Par rapport, par exemple, à la mutualisation de ces efforts-là, disons que nous, comme l'Institut, la faculté existe depuis longtemps, on a partout nos collègues qui travaillent partout ailleurs. Et quelquefois, nous utilisons bien entendu leurs relations pour avoir les stages, par exemple, parce que dans notre programme, il y a un mini-stage qui se passe à la CST en troisième année, puis un stage d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes de la troisième année. L'année, par exemple, l'année passée, on a trouvé deux places. On a trouvé deux places pour nos étudiants à N'Djamena, à l'IRED, parce qu'il y a quelqu'un de SAR, de Doyaba, ici, qui est là-bas dans le projet. Et par ces relations, on a trouvé deux places pour nos étudiants. Le délégué de l'agriculture, par exemple, du Mandoul, c'est quelqu'un avec qui nous avons fini ici. Je l'ai appelé pour le stage. Il a aussi facilité l'accès aux étudiants là-bas. À la CST, nous avons aussi beaucoup de gens qui ont fini ici. Quand nous introduisons notre demande pour le mini-stage, nous passons toujours par ces gens-là. Donc c'est une idée qui était là, mais nous n'avons pas peut-être su l'entretenir. Mais tel que vous parlez, si on devait créer un truc entre nous et puis s'échanger, ça permet aux plus jeunes de connaître les plus anciens et peut-être que ça pouvait tirer beaucoup de personnes.
C'est ça.
Ah, c'est vraiment une bonne chose.
Donc nous encourageons vraiment cette initiative-là au niveau de chaque site-là, que les anciens puissent pouvoir avoir un cadre d'échange entre eux et ça permet vraiment d'aider les plus jeunes et même d'initier des projets de développement en lien avec leur formation. Donc ça, c'est vraiment encouragé. Comme je le disais, après ma mission, il y aura une mission du ministère avec l'attaché de la coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France qui appuie ce projet-là, qui viendront vous rencontrer sur le terrain pour voir aussi, au vu du rapport que je vais leur produire, discuter encore avec vous et d'acter la création de cette cellule-là. Autre élément que je voulais peut-être que vous me dites, ça je pourrais le faire hors micro. Hein,
oui.
c'est,